à Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous en direct du studio 9 de la Voix de l'Amérique à Washington. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, le Sénégal est en liesse. Les Lions de la Teranga ont battu la Pologne 2-1 lors de leur premier match en Coupe du Monde. La RDC est dans l'attente d'une session extraordinaire du Parlement qui doit débattre d'une loi pour protéger les anciens présidents élus. 17 morts à Abidjan à la suite de pluies diluviennes la nuit dernière. Le président sud-soudanais Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar doivent se rencontrer demain à Addis Abeba. Également les tribunaux qui sont paralysés en Guinée. Dans un peu plus de 10 minutes, nous aurons également le journal du mondial présenté par Yacouba Ouédraogo. Mais d'abord, le journal. Ce soir dans l'actualité africaine, en RDC, c'est l'attente d'une adresse du président Joseph Kabila concernant son avenir politique. Le Parlement se réunit demain en session extraordinaire et doit débattre du statut des anciens présidents élus. Le point avec Morgane Guiriec.
À 6 mois des élections, cette session extraordinaire du Parlement suscite de nombreuses attentes. Députés et sénateurs doivent débattre de la loi pour protéger les anciens présidents élus, un texte qui doit leur garantir la sécurité, celle de leur famille et de leur patrimoine. Le président Joseph Kabila pourrait également faire un discours sur l'état de la nation et nombreux sont ceux qui attendent qu'il se prononce enfin sur ses intentions à 6 mois des élections. Le second mandat du président congolais s'est achevé en décembre 2016 et selon la Constitution, il ne peut briguer un troisième mandat. Le chef de l'État congolais n'a pourtant jamais annoncé clairement ses intentions. Il s'est jusqu'ici contenté de dire que la Constitution sera respectée. Au cours d'une visite en Angola, Léonard Tché Okitundu, ministre congolais des Affaires étrangères, a évité de répondre à une question sur une éventuelle candidature de M. Kabila. Il a également nié toute tension avec l'Angola.
RDC toujours, la détention provisoire de 5 militants du mouvement pro-démocratie Filimbi, poursuivis pour outrage à la personne du chef de l'État, a été prolongée de 15 jours d'après leur avocat. Les 5 militants avaient été arrêtés fin décembre alors qu'ils appelaient à une manifestation demandant au président de quitter le pouvoir. Au Mali, Tiena Koulibaly, ministre de la Défense, reconnaît l'implication de certains personnels de l'armée dans des violations graves ayant occasionné la mort d'hommes. 25 corps ont été découverts dans 3 fosses communes près de Mopti, une semaine après une série d'arrestations par l'armée malienne dans le centre du pays. En Gambie, le président Adama Barrow a condamné aujourd'hui les violences policières qui ont fait 2 morts hier. Les deux jeunes hommes ont été tués par la police à Faraba, Banta. Les jeunes manifestaient contre un site d'extraction de sable qui, selon eux, pollue les rivières de cette région bordant le fleuve Gambie. La Côte d'Ivoire compte ses morts après la forte pluie qui s'est abattue la nuit dernière sur la capitale économique ivoirienne, Abidjan. Un bilan provisoire fait état de 17 morts. Précision avec notre correspondant Georges Ibrahim Tunkara.
Une dizaine de morts selon les sapeurs-pompiers, plusieurs blessés et des disparus. La pluie qui s'est abattue dans la nuit de lundi à mardi sur la capitale économique ivoirienne a fait de nombreuses victimes et d'importants dégâts matériels. Particulièrement touché, le quartier de la Riviera, à l'est d'Abidjan.
C'est terrible de se voir réveillé à plein 2h du matin et sans soutien, sans secours. Nous sommes vraiment désolés de voir tout ce qui se passe. Cette rue ministre, ça fait plus de combien d'années on nous promet de venir arranger, on ne voit personne. Vraiment, le même est venu tout à l'heure, il était vraiment au devant de tout, mais... impuissant. Oui, on allait chercher une remorque pour venir. On me nous dit qu'on va tirer ça à 75 000. Ça, que vous voyez.
Des routes impraticables, des maisons et des ponts effondrés, des véhicules emportés par les eaux, la capitale économique ivoirienne est sous le choc. Le premier ministre ivoirien Amadou Koulibaly, après avoir présidé une réunion ministérielle des crises, s'est rendu sur le terrain pour apporter la compassion du gouvernement aux victimes. Selon les services météorologiques, la situation ne devrait pas s'arranger. Des nouvelles pluies sont annoncées. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
Et le Niger aussi risque d'être confronté en 2018 à de nouvelles inondations qui pourraient affecter plus de 170 000 personnes. C'est ce qu'ont dit les Nations Unies. Le président sud-soudanais Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar doivent se rencontrer en face à face demain à Addis Abeba pour la première fois en près de 2 ans. Une rencontre qui pourrait constituer un pas vers une paix durable dans la région. Le point avec Lionel Gaïma.
La rencontre aura lieu à Addis Abeba à l'invitation du premier ministre éthiopien. Abiy Ahmed appelle les deux frères ennemis à résorber leurs divergences et à travailler à la pacification du Soudan du Sud, un pays en proie à la guerre civile depuis plus de 4 ans. La rencontre sera supervisée par l'organisation régionale IGAD qui a chapeauté une série de pourparlers de paix ces derniers mois et qui n'ont jusque-là produit aucun résultat tangible. La communauté internationale et en premier lieu les États-Unis font pression depuis de longs mois pour tenter de réactiver un accord de paix conclu en août 2015 et qui a été maintes fois violé. Cette rencontre entre le président Salva Kiir et son ancien vice-président est une première depuis les violents combats qui avaient secoué Djouba en juillet 2016 et avaient amené Riek Machar à quitter la capitale sud-soudanaise pour aller vivre en exil.
Le passeport diplomatique centrafricain de Boris Becker est un faux, a assuré Chérubin Morumba, directeur de cabinet du ministre centrafricain des Affaires étrangères. Mi-juin, l'ancienne star du tennis mondial a brandi un passeport diplomatique pour se défaire d'une poursuite pour dette à Londres.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité dans le monde, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a entamé ce mardi une visite de 2 jours en Chine, une semaine après sa rencontre historique avec le président américain Donald Trump. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
L'homme fort de Pyongyang cherche à obtenir un assouplissement des sanctions économiques en échange de ses promesses de dénucléarisation et espère le soutien de la Chine. La diplomatie chinoise, tout comme celle russe, a suggéré la semaine dernière que les Nations Unies pourraient envisager d'alléger les sanctions si Pyongyang se conformait à ses obligations. La Chine a proposé ses services diplomatiques. La semaine dernière, le sommet historique entre Donald Trump et Kim Jong-un a débouché sur une déclaration dans laquelle le dirigeant nord-coréen a réaffirmé son engagement pour la dénucléarisation de la péninsule coréenne. C'est la 3e visite en Chine du dirigeant nord-coréen en moins de 3 mois. Fin mars, il a effectué à Pékin son premier déplacement à l'étranger depuis son arrivée au pouvoir fin 2011. En mai, il est retourné en Chine. Kim Jong-un et le président Xi Jinping ne s'étaient auparavant jamais rencontrés depuis leur arrivée respective au pouvoir. Pyongyang reprochait à son allié d'appliquer les sanctions internationales contre le programme nucléaire.
Les États-Unis restent ouverts au dialogue avec la Chine pour résoudre leur conflit commercial, a assuré Peter Navarro, un des conseillers économiques de la Maison-Blanche, au lendemain de l'annonce de nouvelles menaces de taxes douanières sur 200 milliards de dollars d'importations chinoises. Peter Navarro a repris des propos martelés depuis des mois par le président Donald Trump. Les États-Unis ne sauraient tolérer plus longtemps des pratiques commerciales jugées déloyales et ils doivent défendre les joyaux de la technologie et de la propriété intellectuelle américaine. Le ministre mexicain des Affaires étrangères, Luis Videgaray, a condamné la séparation des familles de migrants qui entrent clandestinement aux États-Unis, qu'il a qualifié de cruelle et inhumaine. Nous lançons un appel au gouvernement américain au plus haut niveau pour qu'il reconsidère cette politique et donne priorité au bien-être et aux droits des petits garçons et petites filles, indépendamment de leur nationalité, a souligné M. Videgaray. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Tout de suite, le journal du mondial présenté par Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal du mondial. L'Afrique tient enfin sa première victoire dans le mondial 2018. Ce sont les Lions de la Teranga qui ont sauvé l'honneur. Victoire du Sénégal 2-1 devant la Pologne de Robert Lewandowski. Dans un premier acte plutôt fermé, les Lions se sont montrés beaucoup plus tranchants sur les attaques rapides, alors que les Aigles Blancs ont eu beaucoup de mal à trouver des solutions dans le camp sénégalais. Après plusieurs situations intéressantes, la bande à Aliou Cissé finissait par trouver la faille sur une frappe de Ganagay déviée par Sionek dans son propre but. 1-0 à la 38e. Même score à la mi-temps. À la reprise, Mbaye Niang a permis au Sénégal de mener 2-0 à la 60e. Krychowiak a réduit le score entre-temps pour la Pologne à la 86e. Score final 2-1. Les Lions prennent ainsi la première place du groupe H aux côtés du Japon vainqueur de la Colombie sur le même score. Scène de liesse populaire à Dakar, comme vous pouvez l'imaginer. Nous avons joué notre envoyé spécial à Dakar, Abdourahman Dia, sur place.
Yacouba, je viens de la place de l'Obélisque où il y avait deux écrans géants pour des centaines de fans. L'ambiance était électrique, il faut le dire, et en ce moment, dans les rues de Dakar, comme vous pouvez l'imaginer, l'ambiance est également au top. Les supporters étaient un peu tendu vers la fin du match quand la Pologne a marqué un but. Mais à part ça, tout au long des 90 minutes, c'était une ambiance électrique qui rappelle un peu celle de 2002, même si pour l'instant ce n'est pas comparable, Yacouba.
Vous êtes dans un taxi, vous avez quelqu'un avec vous, est-ce qu'on peut l'entendre?
Oui, quelle est l'ambiance à Dakar et qu'est-ce que vous pensez de la victoire des Sénégalais?
Oui, l'ambiance c'est bien, très bien. C'est une finale pour l'Afrique. Parce que tous les Africains ont battu, mais le Sénégal a battu la Pologne. Vraiment, c'est beau.
Le mondial qui bat son plein à Dakar, les affaires sont aussi florissantes grâce à la Coupe du Monde. Drapeaux et autres articles liés à l'équipe sénégalaise se vendent comme des petits pains. Notre envoyé spécial à Dakar, Abdourahman Dia, a promené son micro au marché de Sandaga. Écoutons les réactions des quelques commerçants qui se frottent les mains.
Nous vendons quand même pas mal de maillots. Vous savez, nous exposons nos articles et tout est en vert, jaune, rouge, en espérant une victoire et nous pensons que nous pouvons gagner.
Oui, les maillots se vendent très bien. Surtout les maillots et les casquettes. Et si l'équipe gagne, les affaires iront mieux pour nous. Plus l'équipe fait de bons résultats, et mieux ça ira pour nous. Espérons que l'équipe ne perdra pas, car si elle gagne, ce sera tellement bien qu'on se fera plus d'argent que pendant les fêtes de Tabaski.
Bien avant le match Sénégal-Pologne, la Colombie a passé une sale journée face au Japon. Une défaite 2-1 et un exclu, le premier du mondial, à 10 contre 11. Pendant près d'une heure et demie, la Colombie s'est mise toute seule en grande difficulté. Elle a perdu contre l'adversaire supposé le plus faible de son groupe. L'édition 2018 commence bien mal pour les partenaires de Radamel Falcao, avec une défaite concédée malgré un joli coup franc de Juan Quintero à la 39e, sur des buts de Shinji Kagawa, sur pénalty à la 6e et Yuya Osako de la tête à la 73e. Hier, l'Afrique a enregistré sa 4e défaite après l'Égypte, le Maroc et le Nigeria. Ce fut le tour de la Tunisie de passer à la trappe. Harry Kane a crucifié les aigles de Carthage. Un doublé de l'attaquant anglais a sauvé in extremis l'Angleterre du piège tunisien 2-1. Le capitaine anglais a enfoncé le clou dans les arrêts de jeu à la 91e pour délivrer les 3 lions, jusque-là incapables de se défaire des Tunisiens accrocheurs. Kane avait aussi ouvert le score à la 11e minute avant l'égalisation tunisienne par Sassi sur pénalty à la 35e. C'est le coup de sifflet de Jules Valentin Ngoué depuis Libreville.
Bonjour. Pour la 4e sortie d'une équipe africaine dans ce mondial russe, la Tunisie était venue avec la ferme intention d'inverser une tendance jusque-là négative, avec 3 défaites, aucun but marqué par les ambassadeurs du continent. En Afrique, la Tunisie a la réputation de produire le football le plus proche de celui joué de l'autre côté de la Méditerranée. Un bon équilibre entre la technique latine et le cynisme tactique à l'italienne, alternant des défis physiques et des phases créatives au-dessus de la moyenne, ils font de cette équipe la bête noire de toutes les formations d'Afrique du Nord. Dans l'incontestable opposition de style qu'ils ont eu à affronter contre une équipe anglaise renouvelée depuis l'Euro 2016, les aigles de Carthage ont miraculeusement desserré l'étau installé par la jeune garde britannique autour des Kane, Sterling et autres Rashford, en particulier en fin de première mi-temps. Mais les Tunisiens sont aussi connus pour leur travers habituel, celui de préférer la posture de réaction à celle d'action, tout l'attentisme observé en seconde mi-temps, alors que les Africains, qui avaient récupéré la possession du ballon, se sont contentés de faire courir les Anglais, prenant des risques avec des rétropasses qui vont attirer les chasseurs de buts britanniques dans la zone fatale. D'où ce deuxième but assassin d'Harry Kane au temps additionnel. La Tunisie est punie par là où elle a péché. Il ne reste plus qu'au dernier de cordée, le Sénégal, à en tirer les leçons.
Voilà qui met fin à ce journal du Mondial.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, place au dossier du jour. En RDC, le Congrès doit se réunir à partir de demain en session extraordinaire sur convocation du président de la République. Parmi les sujets qui seront débattus, les statuts et la protection des anciens chefs d'État congolais. Le président Joseph Kabila prononce à l'ouverture un discours à la nation qui est beaucoup attendu. Eddy Sango a joint à Kinshasa le constitutionnaliste Laurent Outchoumbé.
Les signaux forts de la CENI démontrent à suffisance qu'effectivement la date sera tenue. Donc je pense que le président de la République vient appeler la nation à ce qu'elle se prépare au fait que ces élections aient effectivement lieu à cette date, de telle sorte que pour les groupes politiques et les groupes socioculturels, je parle de la société civile bien entendu, se mobilisent parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui ne croient pas que la date que la CENI a annoncée pour les élections sera respectée. Donc je pense qu'en tant que le garant de la nation, il va tout simplement appeler la population à considérer qu'il est évident que les élections auront lieu à cette date.
De quoi sera faite cette session extraordinaire qui est convoquée au Parlement?
Nous avions tous suivi la lettre de convocation de cette session extraordinaire du Parlement. Il a été noté que le Parlement, c'est-à-dire le Congrès, va s'atteler pour l'examen de la loi relative au statut des anciens chefs de l'État en République démocratique du Congo. Ça, c'est la première thématique qui sera discutée par les deux chambres du Parlement, mais également le chef de l'État va s'adresser à la nation, parce que vous savez que notre Constitution donne l'opportunité au chef de l'État de s'adresser à la nation une fois là au travers les deux chambres réunies à Congrès.
Est-ce que la Constitution ne garantit pas déjà suffisamment les statuts d'anciens chefs d'État pour qu'on en ajoute autre chose?
De façon principale, la Constitution prévoit effectivement que tout ancien chef de l'État en République démocratique du Congo devient sénateur à vie. Mais les modalités pratiques, le Parlement doit logiquement donner un peu de détails sur la faisabilité. Parce que même la Constitution ne donne pas les modalités pratiques dans combien de jours le chef de l'État sera sénateur, quelles sont les modalités pratiques de sa cooptation. Donc je crois que toutes ces questions-là, en détail, que les parlementaires doivent mettre dans une loi pour que la nation respecte.
Dans le passé, un sénateur avait proposé une loi comme ça qui n'est jamais passée au vote.
La question n'a jamais été débattue et rejetée. C'est la toute première fois, parce que le chef de l'État a le mandat de pouvoir convoquer une session extraordinaire, c'est la toute première opportunité qui est offerte aux deux chambres du Parlement de pouvoir discuter sur une loi que moi j'estime assez importante, surtout pour notre pays.
La Constitution de la République démocratique du Congo limite à deux les mandats du président de la République. Mais est-ce que c'est possible que celui-ci revienne après avoir laissé passer quelques mandats, un peu comme en France, on l'a vu avec Sarkozy?
Effectivement, c'est l'option qui a été levée par les constituants congolais. Tout ce qui est interdit chez nous, c'est pouvoir renfler consécutivement trois mandats. Alors, si un seul mandat passe et le président qui a fait deux mandats peut revenir, faire encore deux mandats, repartir et passer un mandat et revenir encore deux fois, il n'est pas interdit.
En fait, la formulation ne semble pas très claire là-dessus.
La lecture ministérielle de l'article 71 et sa suite démontrent à suffisance que ce qui est interdit, c'est renfler de façon effectivement consécutive trois mandats.
C'était Laurent Outchoumbé, avocat et constitutionnaliste. Il était joint à Kinshasa. Les travailleurs de Twangiza Mining, une filiale de la société minière Banro Corporation, viennent de voler au secours de 300 personnes vulnérables, orphelins et malades indigents vivant dans les chefferies autour de la mine d'or de Twangiza. C'était à l'issue d'une journée de solidarité, de partage et d'encouragement de la jeunesse de la région à travers l'initiative Main de Compassion. Ernest Mouhero a fait le déplacement dans la chefferie de Luwinja à 85 km de Bukavu. Écoutons son reportage.
Je suis content de ce que Banero nous a fait. Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est la première fois de recevoir une fâche dans ma vie. Ça va m'aider et aider ma famille.
C'est à ces termes que Charles Baririndouba, âgé de 55 ans et père de 7 enfants, a exprimé sa satisfaction après avoir reçu des travailleurs des Twangiza Mining une vache laitière et 100 000 francs congolais au cours de la cérémonie dite Mai des Compassions à la cour royale de Luwinja. 200 autres familles vulnérables identifiées dans les chefferies de Kaziba, Bourigny et Luwinja ont reçu également une vache de l'argent en présence du roi des Bawinja, des députés provinciaux et du gouverneur du Sud qui chez vous, Claude Nyamogabo.
Je suis venu communier avec notre population. J'ai vu que les vulnérables qui reçoivent ces dons sont heureux et cela est à féliciter, tout en l'encourageant à exécuter le cahier des charges qui a été signé avec le gouvernement congolais.
Selon les directeurs généraux des Tongisa Mining, Philippe Muteba, ce geste qui intervient une fois chaque année est une façon pour cette compagnie minière d'exprimer son attachement et compassion vis-à-vis des populations vulnérables qui vivent autour de la mine des Tongisa. Cette année, poursuit-il, le montant réuni a atteint 125 000 dollars américains.
Nous sommes tous venus ici travailler, nous trouvons notre salaire ici. Mais nous voyons autour de nous qu'il y a beaucoup de pauvres. J'ai parlé à tous les travailleurs pour qu'on commence à cotiser. Je suis allé à beaucoup de fournisseurs. Avoir 125 000 dollars au bout de 9 mois, c'est quelque chose de remarquable. On a distribué, je dirais, 201 vaches à 201 vulnérables. Et puis, on a aussi donné à chacune des personnes une enveloppe de 100 000 francs. Parce que pour que nous puissions trouver des bénédictions pour notre compagnie ou pour notre mine ou pour notre environnement, il faut faire certains sacrifices pour établir ces liens sociaux entre la communauté et la compagnie.
L'ambiance était festive dans une communion sur fond de musique religieuse et barbecue où expatriés des Tongisa Mining, délégation des autorités provinciales venues de Bukavu et les agents et cadres de cette compagnie minière ont partagé un repas avec la population vulnérable. L'initiative Mets des compassions est constituée des cotisations volontaires des travailleurs des Tongisa Mining et leurs partenaires pour créer chaque année un climat de convivialité et d'entraide vis-à-vis des vulnérables autour de la mine d'or. À travers la Mets des compassions de cette filiale de Banro Corporation, l'orphelinat des Kaziba qui encadre 50 orphelins et l'association APEF, Action pour la promotion de l'enfant et de la femme qui encadre 177 enfants et femmes sortis des carrés miniers, ont reçu chacun des vaches, 10 porcs et 10 chèvres avec une enveloppe supplémentaire de 1000 dollars pour le cas de l'orphelinat. Le directeur général des Tongisa Mining a remis une enveloppe de 1000 dollars à l'hôpital général d'Ifendula pour payer les frais des soins et hospitalisation des malades indigents, en plus de 100 kilos de vivres et nourriture remis à chaque malade hospitalisé. De tels rapprochements entre la compagnie et la population sont de nature à favoriser un bon climat. Depuis un temps, les filiales de Banro Corporation à l'est de la RDC sont victimes d'attaques et sabotages des bandes armées, particulièrement la filiale Namoya Mining à Salamabila dans la province du Maniema. La mine d'or des Tongisa située dans la chefferie des Louindja en territoire des Mwenga produit entre 6 000 à 10 000 onces d'or le mois. Ernest Mouero à Louindja pour VOA Afrique.
Bonjour, c'est Nathalie Barge pour vous rappeler de ne pas manquer le monde au féminin de VOA Afrique, mardi et samedi à 19h05 temps universel. Le monde au féminin. Une émission dans laquelle on aborde les questions qui concernent et préoccupent les femmes et les jeunes. Un espace réservé à tous. Le monde au féminin. Féminin. Un espace qui donne la parole à celles et ceux qui osent aller de l'avant comme vous. Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05 temps universel sur VOA Afrique.
Au Congo-Brazzaville, une mission humanitaire composée du gouvernement des Nations Unies et de l'Union Européenne s'est rendue lundi à Mdanza, Ngunga, dans le Pool, pour assister les populations qui retournent dans leur village après des mois de violences armées. À la suite de cette visite, l'ambassadrice de l'Union Européenne s'est dit préoccupée par les mauvaises conditions de vie des sinistrés qui retournent chez eux. Notre correspondant Arsène Séverin a fait le déplacement de Mdanza, Ngunga.
Après avoir octroyé des fonds nécessaires pour apporter de l'aide alimentaire aux déplacés du Pool, l'ambassadeur de l'Union européenne est allé sur le terrain pour échanger avec les bénéficiaires. Saskia Delong a constaté qu'il y avait encore beaucoup de choses à faire pour la réinstallation des sinistrés.
La situation dans le Pool et le dénuement dans lequel les populations vivent quand même. Nous voyons que beaucoup de déplacés sont déjà rentrés chez eux, mais ils trouvent des situations extrêmement difficiles, des maisons délabrées ou bien détruites, des champs qui n'ont pas été cultivés, des points d'eau qui ont été détruits. Donc tout est à reconstruire et ça ne se fait pas d'un jour à l'autre et il faut aider donc ces populations.
La ministre en charge des affaires sociales, Antoinette Nzinganjondo, qui suit de près ce dossier, a reconnu des faiblesses et ne sait parfois pas par quel bout commencer. Les besoins sont énormes et le gouvernement n'arrive toujours pas à réunir les fonds nécessaires.
Le relèvement, ça prend du temps. Il n'y a pas un secteur qui est plus que l'autre. L'eau, l'assainissement, l'éducation,
la santé, tout est à refaire. Et évidemment, il y a le logement, parce qu'ils ont perdu leurs abris.
La situation sécuritaire est mi-figue, mi-raisin dans cette partie du Poule, et les miliciens ninjas reconnaissables à leurs tignasses n'ont pas encore rendu les armes. Cela ne rassure pas les 23 000 habitants de Mazandunga qui hésitent de retourner chez eux. L'abbé Paraclet Moutila.
Le calme est revenu. Sur la route, là, vous avez vu, il y a encore la présence de nos frères là et tout ça. Ben, qu'est-ce que ça va donner? Il y a un peu de crainte, mais je réitère qu'il y a plus de peur que de mal.
Par contre, l'assistance alimentaire apportée grâce aux fonds européens se passe bien. Le PAM a mis en place un système de cash transfert qui permet un service rapide. Dans les villages où les conditions ne sont pas réunies, les vivres sont directement servis aux bénéficiaires. Jérôme Tokanou de la Caritas Congo.
Il y a un mouvement de retour, voilà pourquoi Caritas appuie cette population avec l'aide de l'Union européenne, le PAM et tous ceux qui sont vraiment habilités à pouvoir venir en aide à cette population-là. Ça s'est stabilisé, voilà pourquoi les humanitaires fréquentent maintenant le milieu. Parce que quand il n'y a pas stabilité, les humanitaires n'ont pas aussi accès. Le ministère ne prend pas vraiment le risque de donner l'accès aux humanitaires sans qu'il y ait la paix.
Les populations continuent d'appeler au retour définitif de la sécurité pour qu'elles cultivent leurs terres et vivent dans la prospérité. De retour de Mazandunga, Arsène Séverin, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
En Guinée, une grève des greffiers paralyse les tribunaux depuis quelques jours. Les grévistes étaient ce matin à la Cour suprême pour réclamer l'annulation de la suspension de leurs collègues. La sanction contre les meneurs du mouvement par le ministre guinéen de la Justice est une intimidation, affirment les greffiers, qui menacent de poursuivre la grève jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Reportage à Conakry de Zakaria Camara.
On a attaqué la décision du ministre, nous attendons un procès, semblait satisfait devant la Cour suprême, Mamadou Diandjalo, l'un des 5 greffiers suspendus. La démarche des greffiers est une réaction à la décision du ministre guinéen de la Justice qui a suspendu de leurs fonctions les meneurs de mouvements de grève pour troubles et atteinte au bon fonctionnement de l'administration. C'est une violation de la loi, selon Mamadou Diandjalo, porte-parole des greffiers.
Le ministre seul ne doit pas se retrouver dans son bureau, prendre un acte unilatéral comme ça pour sanctionner un greffier. Ça obéit à une certaine règle qui est contenue dans le statut particulier.
La loi fondamentale et le décret portant création du statut particulier des greffiers n'ont pas été respectés, dénonce à son tour Maître Salif Beavogui, avocat des grévistes qui se dit surpris.
Ce qui m'attriste, en lieu et place de négociation, eh bien, on passe par leur suspension. Cela me paraît sincèrement inapproprié. Je suis attristé, je suis vraiment dépassé, je suis révolté.
Les greffiers réclament de meilleures conditions de travail. Tamba Wondino a été lui aussi suspendu pour avoir créé un vide dans les cours et tribunaux.
Le premier point, le paiement des indemnités et primes de tous les greffiers. Le deuxième point, la mise en place de la commission administrative paritaire. Et le troisième point, c'est l'institution d'une formation professionnelle continue pour tous les greffiers. Et le dernier point, c'est le reclassement effectif de tous les greffiers en chef et des greffiers qui ne sont pas reclassés dans la hiérarchie A de la fonction publique.
92 greffiers ont décidé de poursuivre le mouvement. Seuls les greffiers en chef n'ont pas observé le mot d'ordre de grève. La crise à Kaya Camara, VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. À la mise en onde, Lionel Gaïma. À la console, Mikhaïl Dubinsky. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com.
Afrique. Les